Studio Tamani, voici nos informations en français.
Vous nous écoutez à Kati sur la radio Bélécan. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres. Les partenaires du Mali mettent en garde contre un éventuel recours à des mercenaires russes. Au même moment, au sein de la société civile malienne, les avis sont partagés. Certains soutiennent l'idée, d'autres pensent qu'il faut renforcer nos propres forces. Les préparatifs de la fête de l'indépendance battent son plein. À la place d'armes de Kati, les différents corps de l'armée sont mobilisés pour les festivités du défilé du 22 septembre. Après plusieurs mouvements, le comité syndical de la direction des marchés publics a entamé hier une grève illimitée. Il réclame l'application d'un accord signé depuis 2019. Monsieur Touré à la présentation, à la mise en onde, Mamadi Keïta. Le dossier Wagner était au cœur de la visite de la ministre française des Armées à Bamako hier lundi. Un déplacement qui visait à dissiper les tensions entre Paris et les autorités maliennes. Des tensions qui font suite à des discussions entre le Mali et la société de sécurité russe Wagner. L'Allemagne et l'Union européenne ont aussi mis en garde contre un éventuel recours à des mercenaires russes. Le point avec Imran Akulumaïga.
À son arrivée à Bamako, la ministre française des armées s'est entretenue avec son homologue malien, le colonel Sadio Camara. Selon Florence Parly, les échanges au cours de ce tête-à-tête ont été francs, discrets et complets. Tout en affirmant que son pays ne quittera pas le Mali, Florence Parly a annoncé que la France allait renforcer son dispositif sécuritaire dans la zone dite des trois frontières. En prélude à la 76e Assemblée générale de l'ONU à New York, son collègue des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré ceci. Nous avons fait savoir aux autorités de Bamako qu'un tel partenariat avec des mercenaires russes serait incompatible avec l'action internationale. Il a aussi rappelé que les agents du groupe de sécurité russe Wagner sont des mercenaires. D'après Le Drian, ceux-ci interviennent à la fois en Syrie, en Libye, au Donbass, en République centrafricaine et multiplient les exactions avec les mêmes méthodes. À la suite, Joseph Borrell, chef de la diplomatie de l'Union européenne, a aussi indiqué qu'un accord avec le groupe de sécurité russe Wagner affecterait sérieusement la relation entre l'Union européenne et le Mali.
Au sein de la société civile, deux camps se dégagent dans ce débat sur un éventuel partenariat entre le Mali et la société de sécurité privée russe Wagner, ceux qui soutiennent l'arrivée de forces russes dans le pays et la fin du partenariat avec la France et ceux qui estiment qu'il faut plutôt compter sur nos propres forces. Les détails avec Assitou Kanté.
La question de sécurité d'un pays ne doit pas être négligée, affirme Pape Diallo, membre du mouvement Yerewolo debout sur les remparts. Il estime que le Mali a le droit d'employer d'autres moyens pour garantir sa sécurité.
Wagner est une société militaire de sécurité et de défense. Le Mali a besoin d'une force de sécurité et de défense qu'elle a achetée avec ses propres moyens. Depuis que nous avons commencé à avoir un partenariat avec la France, tout s'est mal passé. Donc Yerewolo debout sur les remparts a dit, mais il faut aller vers ce qui marche et laisser ce qui ne marche pas. C'est pour cela que nous nous sommes mobilisés vraiment pour qu'il y ait un partenariat entre le Mali et la Russie.
Ibrahim Akebe de l'association Face au Kanou ne partage pas ce point de vue. Selon lui, le Mali ne doit compter que sur ses propres moyens.
L'hier et la Russie d'aujourd'hui sont diamétralement opposés. La Russie actuelle est impérialiste comme la France d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas contre le fait de demander de l'aide à un pays étranger, mais nous devons garder en tête que chaque pays qui prétend venir nous aider ou nous sauver viendra pour défendre ses propres intérêts. Mais le plus important, qu'est-ce que nous-mêmes nous pouvons faire pour nous défendre?
Des spécialistes des questions sécuritaires pensent que les Maliens ont aujourd'hui une soif d'autonomisation en matière de sécurité. Toutefois, il les invite à plus de prudence et de lucidité pour éviter d'autres erreurs.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Je l'annonçais dans les titres, le Mali célèbre ce mercredi 22 septembre le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance. Autrefois, cette fête était célébrée en grande pompe, notamment dans les localités de l'intérieur du pays. Mais depuis des années, tel n'est plus le cas. Le 22 septembre se résumant à des prises d'armes dans les camps militaires. Dans ces localités, certains comprennent les raisons de cette sobriété au regard du contexte de crise alors que pour d'autres, rien ne doit justifier la non-organisation des festivités du 22 septembre, jour de l'indépendance. Reportage signé Khalifa Goïta.
Pourquoi la fête de l'indépendance n'est plus célébrée comme avant à l'intérieur du pays? Sur la question, les avis divergent. Pour cet habitant de Yuaru, la célébration du 22 septembre, bien que fête de l'indépendance, n'est pas une priorité aujourd'hui.
Chez nous, à Yuaru, nous voulons que les festivités du 22 septembre cessent d'abord, car les Maliens ne parlent pas le même langage. Le moment où les Maliens s'entendront, ça sera possible de fêter.
La situation de crise ne saurait expliquer la non-célébration d'une fête comme le 22 septembre, martèle cet habitant de Ségou.
Des gens se sont battus avant nous. Je me rappelle du 22 septembre de 1973, le Nyoblé-Konga, des années très dures, des années de guerre, de rébellion aussi. Ils ont pourtant fêté le 22 septembre. Qu'est-ce que nous dirons à la progéniture? Vraiment, ça me fait peur. C'est nous qui devons nous imposer. Éprouver à l'ennemi, dans l'ennemitié, nous devons garder le sourire.
Pour ces résidents de Sikasso, dans le sud du pays, la fibre patriotique n'existe plus chez le citoyen.
La fête du 22 septembre, ce n'est plus comme avant. C'est juste la plupart des Maliens ont perdu le sens du patriotisme.
Des Maliens espèrent que les grandes manifestations qui entouraient la fête de l'indépendance vont reprendre bientôt. Cela renforcerait, disent-ils, la cohésion sociale.
Toujours dans la mouvance de la fête du 22 septembre, les différents corps de l'armée sont en plein préparatif à la place d'armes de Kati. Depuis le jeudi dernier, les militaires multiplient les activités physiques en vue des préparatifs du défilé du 22 septembre. Le dernier essai et entraînement a eu lieu ce lundi 20 septembre 2021. Notre correspondante à Kati, Abibatou Christine Dra, était sur place.
Peinture, décoration, emplacement, répétition des fanfares, essai des défilés de tout corps. C'est à peu près le tableau qu'affiche la place d'armes de Kati ce lundi. Malgré le contexte, tout est fin prêt pour le défilé du 22 septembre, affirme l'inspecteur Moussa Di Fafa Doumbia.
Cette année, c'est que le Mali traverse un moment un peu difficile. Ce qui est sûr, nous allons faire avec les moyens de bord. Bon, ça sera fait comme les autres, mais il y a un cachet particulier pour cette année, compte tenu de la situation dont nous vivons.
La protection civile se dit aussi prête pour le défilé de ce mercredi. Sa particularité à elle, c'est démontrer autre équipement différent des armes. Lieutenant-colonel Adama Diatigi Diara, directeur régional de la protection civile du district de Bamako.
La particularité au niveau de la protection civile, comme matériel organique, comme outil de travail, faire le défilé avec, ça c'est une première fois dans l'histoire de la protection civile au Mali.
Les agents des autres corps constitués de l'armée sont aussi dans la dynamique des défilés de ce 22 septembre qui se dérouleront dans des conditions exceptionnelles. De Kati, Abibatou Christine Dra pour Studio Tamani.
Autre sujet, le personnel de la direction des marchés publics a entamé hier lundi 20 septembre 2021 une grève illimitée. Selon le syndicat, cette grève a été motivée par le constat d'immobilisme des autorités dans l'application d'un accord signé depuis 2019. Cet arrêt de travail intervient après une série de grèves, une première de 3 jours et une autre de deux semaines, précise le secrétaire général du comité syndical de la direction général des marchés publics. El Mokhtar Mahaman Touré est au micro de Mamadou Samasekou.
Les points de revendication portent sur la relecture du décret portant prime et indemnité allouée au personnel. Nous avons concédé même de différer ce point compte tenu des difficultés budgétaires que le pays connaissait et de ne plus de chance au second point portant produit de la redevance de régulation des marchés publics. La grève ne concerne pas que Bamako, a été largement suivie sur l'étendue du territoire national de Kay à Kidal. Cela a un grand impact sur l'économie parce que les marchés qui doivent être enregistrés aux impôts pour le prélèvement de la taxe des droits d'enregistrement, n'est-ce pas, et même la redevance et même la TVA pourront pas être prélevés. Donc c'est un manque à gagner pour l'État au plan économique.
Le rôle et la place des donzos dans la stabilisation du Mali, la promotion de la cohésion sociale et l'unicité des confréries donzos, c'est le thème de la conférence nationale organisée des donzos ce mardi à Bamako. Elle est initiée par l'Association nationale des chasseurs agréés du Mali à l'occasion de la célébration de ses 30 ans d'existence. La rencontre a regroupé des participants venus de plusieurs localités du pays. Mahaman Babakunta.
Cette rencontre de Donso veut favoriser un rapprochement entre les confréries Donso du Mali. Elle ambitionne aussi de poser les bases des mécanismes endogènes d'apaisement du climat social. Modibo Diallo, porte-parole de l'Association nationale des chasseurs agréés du Mali.
La conférence nationale, c'est de pouvoir rassembler l'ensemble des chasseurs du Mali, c'est-à-dire l'ensemble des Donso du Mali, et venir échanger sur la situation du pays et proposer pour une sortie de crise, et surtout une sortie de crise durable.
L'implication des Donso est aujourd'hui une nécessité absolue pour résoudre les problèmes d'insécurité au Mali, expliquent des participants. Pour Binego Wologem, les militaires et Donso sont complémentaires.
Tout le dégât que les militaires sont en train de vivre, c'est parce qu'ils n'ont pas associé les Donso. Si les militaires avaient associé les Donso, aujourd'hui, on allait résoudre ce problème-là tout de suite. Mais ceux-là qui le savent ont transformé cette insécurité en lui donnant une étiquette de religion ou d'ethnie.
À l'issue de cette conférence, une confrérie nationale sera mise en place. L'objectif est de rassembler tous les chasseurs du Mali, affirment les organisateurs.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
À présent, un tour en région. Une jeune dame d'origine nigériane est décédée dimanche dernier dans un bar à Kalana, dans le cercle de Yonfolila. Selon des témoins, la victime est morte alors qu'elle était avec un homme dans une chambre. Ce dernier est toujours recherché par la gendarmerie. Deux morts, plusieurs blessés, c'est le bilan d'un accident grave survenu hier sur l'axe Kita Bamako entre la commune rurale de Kassaro et la ville de Sébékoro. Des témoins indiquent que c'est un car d'une compagnie de la place qui partait à Bamako lorsqu'il s'est renversé. Les causes réelles de l'accident ne sont pas connues pour l'instant. Les blessés ont été admis au centre de santé de référence de Kita. Le gouverneur de la région a rendu visite aux blessés. À présent, nous recevons Imrana Kulumaiga pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Imrana Kulumaiga, quel est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui?
Bonsoir Amsatou Touré, coup d'État au Mali, pourquoi une loi d'amnistie en faveur des putistes? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nous avons trois invités sur ce plateau. Cheikh Omar Sidibé, vice-président du Forum Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali. Fousseini Diop, responsable programme gouvernance et engagement civique à l'AGICAD. Et Ibrahim Ben Mamata Touré, juriste.
Merci Imrana et bon débat. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est la fin de ce journal, mais restez à l'écoute. Dans un instant, la question A. L'historité du Mali indépendant a été marquée par des rébellions armées répétitives. La première ayant éclaté en 1963, deux ans seulement après la proclamation de l'indépendance. Certaines de ces insurrections avaient des revendications d'ordre territorial et identitaire. Mais la plupart de ces mouvements demandaient le développement des régions du Nord, explique Hamidou Tunkara, enseignant à la faculté d'histoire et de géographie. L'universitaire reconnaît que la gestion de ces rébellions par les différents régimes n'a pas permis de circonscrire le problème. Hamidou Tunkara, enseignant à la faculté d'histoire et de géographie, répond aux questions de Imrana Kulumaiga, un entretien qui rentre dans le cadre de notre série de production sur le 22 septembre.
La rébellion qu'on appelle communément la rébellion Touareg, c'est à partir de 1960 que les Maliens ont eu son indépendance. Les Touareg, notamment Zivogas, avaient des problèmes avec l'administration coloniale. Donc après l'indépendance, les mêmes problèmes ont continué parce que vu la position géographique même de la région, des Touareg qu'on appelle lesquels à Dag, donc ils ont eu des problèmes avec l'administration malienne de Modibo Keïta.
Quels étaient ces problèmes-là?
Bon, les problèmes étaient nombreux, des problèmes désenclavement économique, mais il y avait aussi des problèmes politiques parce que dès le départ, alors cette ethnie-là, c'est-à-dire les Touareg, n'était pas du tout d'accord à ce qu'ils fassent partie de la nation malienne. À partir de 1963, donc les vrais problèmes vont commencer parce qu'ils vont essayer de montrer leur position par rapport à l'administration malienne. Donc le premier président Modibo Keïta sera obligé d'envoyer l'armée pour réprimer la rébellion. Pendant tous les restes du régime de Modibo, c'est-à-dire jusqu'en 1968, il n'y avait plus de rébellion. Mais après les coups d'État avec Moussa Traoré, donc les mêmes problèmes vont continuer de se faire en 1990 avec la répression de l'armée malienne en 1963. La façon dont cette population a été réprimée a laissé des séquelles. Et certains jeunes étaient partis dans les pays voisins, notamment en Libye, d'autres étaient partis en Algérie. Pour ceux qui étaient partis en Libye, ils ont été recrutés pour la plupart dans l'armée libyenne. Ont été formés. Donc, avec la rébellion de 1990, certains de ces jeunes-là sont retournés au pays, c'est-à-dire au Mali, pour essayer de poser alors les mêmes revendications. Il y a eu ce qu'on appelle des accords d'Algérie, notamment à Tamaracet.
Est-ce que depuis le départ, cette revendication territoriale était légitime?
La revendication territoriale n'était pas légitime parce que les autorités maliennes tenaient à l'unité du pays, au respect des frontières qui nous ont été léguées par la colonisation.
Qu'est-ce que le pays a à retenir dans cette histoire de rébellion?
Le pays doit tirer des leçons. Certes, il y a certaines revendications qui sont d'ordre identitaire, mais la plupart des revendications parlent surtout du développement de la zone.